ce matin, période oblige. Alors, on aurait pu choisir autre chose, hein. Mais les textes du jour sont nombreux, et dans ces textes-là, je ne peux pas tout prendre ce matin, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de nous arrêter un peu sur ce récit des mages que l'on connaît bien, et que parfois on considère comme une histoire pour les enfants. Alors, c'est bien que les enfants, ça va peut-être leur parler, les mages. Et en même temps, c'est un récit qui a beaucoup de choses à nous apprendre et qui fait le lien aussi avec ce qu'on a vécu à Noël, lors du culte de Noël, où on a parlé de Jésus qui est cette lumière du monde, cette parole incarnée, et cette lumière qui attire à lui finalement, soit qui repousse les gens qui ne veulent pas l'accueillir, soit qui attire à lui les pères qui sont prêts, comme on a entendu dans le témoignage ce matin, hein, ce Dani et sa famille, et ceux des mages qui pourtant ne sont pas du tout au courant de qui il est. C'est dans cet état d'esprit que je vous invite à entendre ce texte ce matin. Matthieu 2, verset 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays. Par un autre chemin. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par cette vérité. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage et je ne pourrais pas tout dire. Alors, ça tombe bien, on pourrait dire que ça revient tous les ans. Hein. On peut changer du coup de façon d'aborder ce texte. Peut-être en introduction, rappeler quand même ce qu'étaient les mages. Et ça tombe bien qu'on ait parlé de quelqu'un d'Iranien ce matin et de Perse, parce que les mages, c'était plutôt chez les Perses et les Mèdes, et c'était une caste sacerdotale qui était très considérée. Ils formaient le conseil secret des rois. Alors, ils n'étaient pas eux-mêmes rois, hein. Il y a eu plein de transformations depuis, des rois, ils étaient trois, ils avaient des tombes, enfin bref. C'est passé plein de choses, et c'est vrai que si on veut leur raconter cette histoire aux enfants aujourd'hui, c'est pas mal de regarder le texte biblique. Voilà, donc c'était pas des rois, mais ils formaient le conseil secret des rois. Ils administraient les affaires religieuses. Et ils se voulaient à l'étude de la nature, et spécialement de l'astronomie. Alors, l'astrologie aussi. Mais avant tout, c'était des scientifiques, des étoiles. Il y avait à la cour de Babylone un ordre de mages, qui était aussi appelé des sages, sur lequel fut établi Daniel, par exemple. On lit ça dans le livre de Daniel. Lui qui avait ce don de comprendre les rêves et de les expliquer, et bien, il a été finalement chef des mages à la cour du roi de Babylone. Plus tard, ce nom de mage fut donné en Orient à tous ceux qui s'occupaient d'astrologie de manière générale, de l'interprétation des songes et généralement des sciences occultes. Ces mages, le texte, viennent d'Orient, une expression vague, qui a laissé libre cours là aussi aux conjectures sur leur patrie. Et puis la nature des dons qu'ils offrent à l'enfant nouveau-né, beaucoup ont pensé à l'Arabie, d'autres à la Perse ou encore à l'Égypte. Hérode fait en tout cas preuve, au moins, que c'était des hommes d'une position considérable. Dans la façon dont il les accueille et dont il les prend en compte. Concernant l'étoile, plusieurs choses à dire aussi. Je vais un peu vite, hein, je suis désolé, c'est frustrant. Alors là, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a vraiment des pépites si vous êtes intéressé par le lien entre la science et la parole de Dieu, par comment l'astronomie parfois colle avec le modèle de texte biblique. Alors, différentes théories sur cette étoile des mages. Ça reste des théories parce que Dieu n'a pas décidé de nous dire le nom de cette étoile. Et il faut le prendre aussi avec foi. Plusieurs interprètes s'arrêtent à l'idée d'une conjonction extraordinaire d'astres. Et là, on a un célèbre astronome qui s'appelle Kepler. Il avait fait des calculs dans le temps 1 et qui avait trouvé cette conjonction qui avait lieu dans le temps de la naissance de Jésus. D'autres ont pensé à une comète, d'autres à une étoile. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur du récit, et surtout le verset 9, nous montre avec évidence que l'écrivain se représente non pas un astre céleste ordinaire, non pas non plus le résultat d'observations astrologiques, mais l'apparition de quelque chose de spécial, un luminaire spécial, qui détermine le départ des mages, pourquoi ils partent, qui leur réapparaît sur le chemin de Bethléem. S'ils ne suivent pas pour le long du chemin, en fait, hein, on croit ça parfois aussi, depuis l'Orient, ils ont suivi une étoile, c'est pas ce que dit le texte. Il réapparaît à partir de Bethléem, à partir de Jérusalem jusqu'à Bethléem, et il s'arrête sur le lieu où se trouve l'enfant. Voilà ce que dit le texte biblique. Et à la naissance du Sauveur, une vive lumière a resplendi aux yeux des bergers. Vous vous souvenez de ce texte merveilleux, où les anges apparaissent dans le ciel. Et bien ici, on se retrouve finalement un peu avec la même idée. Les mages qui sont conduits par une étoile, par quelque chose de brillant, et on est toujours dans le registre de la lumière. Alors deux remarques là-dessus. La première, c'est que le Seigneur fait parvenir aux hommes ses révélations et ses lumières dans les circonstances les plus propres à les mettre à leur portée. À des bergers, en se montrant à eux dans une étable comme un enfant couché dans une crèche. À des pêcheurs en leur accordant des pêches miraculeuses. À des docteurs par l'explication des Écritures. À des agriculteurs par des instructions tirées des travaux des champs. Et aux mages par une étoile. Voilà la façon dont Jésus se fait tout à tous. Et je crois que déjà là, il y a un enseignement assez fort pour nous quand nous voulons partager notre foi. La deuxième remarque, c'est de quelque manière que ces étrangers soient arrivés à leur conviction. La conviction qu'ils portent et qu'ils mettent en route revient de les caractères d'une foi qui surmonte tous les obstacles. Et ça, c'est incroyable. Ils trouvent la ville de Jérusalem, la grande ville de Jérusalem, dans l'ignorance totale du grand événement qui les a conduits jusqu'ici. Au lieu du roi des Juifs qui les cherchent, ils sont conduits devant le tyran qui occupe son trône. Ils voient les prêtres juifs complètement indifférents. On leur indique, au lieu de la capitale, une option bourgade. Puis, une cabane, une maison, on ne sait pas trop. Sûrement quelque chose d'apparence, assez humble quand même. Où se trouve un petit enfant, mais dans une famille d'artisans. Et rien n'ébranle leur foi. Je crois que le miracle de ce récit est là, en fait. Ils se prosternent dans cette petite maison. Ils rendent leurs hommages à celui qu'ils ont cherché avec amour et trouvé avec joie. Une grande joie, nous dit le texte. Alors voilà pourquoi l'Église a vu dans les mages les prémices du monde païen qui cherche le salut. L'arrivée des nations au salut de Dieu. Les autres textes que je ne lis pas aujourd'hui nous parle de ça, Isaïe 60, le psaume 72. Voilà, on voit déjà dès le début de l'évangile de Matthieu, alors le premier chapitre nous dit le salut vient des Juifs, et dès le deuxième chapitre, on voit que les nations y ont part et sont associées. L'image continue la lignée finalement de ces âmes appelées par la grâce prévenante du Saint des nations. Et on a eu d'autres personnages avant eux, on a eu Melchisédek, on a eu Jéthro, Ruth, Job, Naaman et bien d'autres. Et dans les premiers temps de la Nouvelle Alliance, on a la Cananienne, le centenier de Capernaum, et beaucoup encore de prosélytes, de païens craignant Dieu. On voit déjà là que les limites du règne de la grâce ne sont pas si étroites qu'elles nous paraissent souvent à nos vues bornées à nous. Alors cette histoire de la visite des mages plaît un peu à tout le monde quand même, parce que chacun peut s'y reconnaître un peu. La suite, en revanche, inclut une histoire terrible, que parfois on préfère laisser de côté, pour qu'on évite de parler, qu'on appelle le massacre des innocents. Hérode qui fait tuer tous ses enfants pour éviter que quelqu'un prenne son trône. Ce début de l'évangile de Matthieu qui peut nous faire penser au début de la Genèse finalement. Parce que dans la Genèse, très vite après la création, arrive le récit du premier meurtre. Et ici, après la généalogie de Christ et le récit de sa naissance, tout de suite, on a le récit d'un massacre. Jésus n'est pas né dans un monde sans violence, parce qu'il est réalité. De la même façon que nous ne vivons pas dans un monde sans violence. Dieu s'est fait homme pour partager toute la condition humaine. Et sa naissance n'a pas brusquement éliminé les désordres et le mal. Alors je dis pas ça pour ce simple moral en ce début d'année, mais plutôt pour qu'on soit conscient du monde dans lequel nous vivons, du monde dans lequel le Christ est né. Et que nous puissions nous aussi finalement nous situer et décider qui nous voulons être. Et ce chapitre va nous y aider parce que nous nous retrouvons en face de trois catégories de personnes. Hérode, les principaux sacrificateurs et les scribes, et l'image. Trois catégories qui réagissent différemment. Et je crois qu'il nous sera profitable, avec l'aide du Seigneur, de considérer chacune d'elles. Alors c'est sur ces personnages que je vais davantage me fixer ce matin. Hérode, donc, d'abord, était roi à Jérusalem. Personnage extrêmement violent, personnage tyrannique, fou, puisqu'il a fait tuer un grand nombre de gens de sa famille dès qu'il avait l'impression que quelqu'un voulait prendre son trône. Je passe assez rapidement sur ce détail macabre. Ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que Hérode fut extrêmement troublé à l'annonce de la naissance du roi des Juifs. Ça le touchait de très près, parce qu'il savait que si le vrai Messie était là, il ne pouvait plus rester roi. Et donc, c'est la panique. La nouvelle de la venue du roi de Dieu avait aussi de quoi alarmer sa conscience par rapport à sa façon d'être. Et on voit que d'autres réagissent de la même façon, puisqu'on nous dit tout Israël, tout Jérusalem, fut troublé avec lui. Tout Jérusalem. Alors ailleurs, on voit des anges qui chantent « Gloire à Dieu, paix sur la terre ». On a Siméon qui dit « Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix ». Mais à Jérusalem, ce qui demeure, c'est l'effroi, l'angoisse, le trouble et l'inquiétude qui pousse le roi à faire une enquête. Et il commence par rassembler ceux qu'il juge les plus à même de se renseigner et de le renseigner. Il leur demande de connaître le Christ. Et bien que leur réponse soit exacte, ça ne le rassure pas. Il vérifie auprès des mages, mais leur réponse ne fait que confirmer le fait que le Messie est vraiment venu. Cette histoire d'étoile, lui, il la prend très au sérieux. Alors que peut faire Hérode? Il est dans une grande perplexité, il éprouve à la fois de la crainte, de l'effroi. Mais en dépit du nombre de preuves indubitables devant lui, et c'est ce qui est le plus triste, je crois. Il ne se donne pas la peine de chercher le Messie. Il renvoie les mages rechercher l'enfant, et il ne se dérange pas. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir. Ses pensées ne volent pas plus haut, et c'est tout ce qu'il trouve sur le moment pour apaiser son inquiétude. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, son véritable état d'âme a été manifesté par la suite avec ce massacre qu'il ordonne. L'orgueil qui enflamme finalement sa colère, il assouplit sa rage en donnant cet ordre sur les enfants de Bethléem et de tout le territoire. Et il espère de cette façon être délivré de ses inquiétudes en tuant celui qui est né roi des Juifs. Voilà l'homme. Voilà ce que sera toujours l'opposition de la chair à l'égard du Christ, à l'égard de notre bien-aimé Seigneur. Et voilà ce qui a été finalement sa vie à Jésus-Christ. Les hommes entendent cette parole digne de foi selon laquelle le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ils sont spontanément, éventuellement intéressés à entendre cette nouvelle, sont parfois saisis de peur et troublés. Ils prêtent l'oreille à la lecture, à l'explication des Écritures pour un temps. Ils interrogent les serviteurs de Dieu. Ils écoutent ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Ils les entendent, ces serviteurs, déclarer que leur plus grande joie, c'est de contempler et d'adorer celui qui sauve les pécheurs. Et ils s'efforcent d'apaiser leur inquiétude en se promettant d'aller l'adorer lui aussi dans sa temps futur. Voilà ce que font une grande partie de nos contemporains. Et comme pour Hérode, ce temps d'adoration ne vient pas. Comme pour lui, leurs convictions ne sont pas profondes, ils n'ont aucun désir sérieux d'être pardonnés de leurs péchés, aucun besoin profond d'être délivrés de leur culpabilité, aucun souci du véritable état de leur âme devant Dieu. Rien que des idées vagues sur l'adoration, d'autres choses semblables. Et finalement, très vite, en fonction du changement des circonstances, leur cœur change aussi. Et on se retrouve avec cette foule imprévue-là, au moment de la résurrection, qui dit « Non, pas celui-ci, relâche Barabbas. » Dans la première question qui nous est posée avec ce texte d'Hérode, et que peut-être nous pouvons nous aussi poser à ceux qui nous entourent quand nous partageons ce genre de texte, c'est est-ce qu'ils ont déjà été troublés à l'écoute de la parole de Dieu ? Quelle a été la cause de ce trouble ? Est-ce que c'était la peur d'un changement dans nos circonstances ? Est-ce que c'était un exercice de conscience parce qu'on avait péché contre Dieu et qu'on était exposé ? Si c'est ça, c'est la bonne, une bonne façon de faire. La tristesse selon Dieu qui opère une repentance pour le salut, celle dont on n'a pas de regret ensuite. Et si c'est là notre expérience ou celle de quelqu'un qu'on connaît, eh bien, on ne se contente pas du fait que d'autres recherchent le Sauveur à notre place, ils nous en parlent. On le cherche nous aussi. Parce qu'on en a besoin. Notre propre besoin nous y contraint. Et le cri de notre cœur devient alors « Sauve-moi, Seigneur, sinon je péris. » On se réfugie dans le Seigneur Jésus pour être sauvé. On ne se contente pas de se joindre à d'autres d'une manière formelle pour l'adorer. Si on est vraiment convaincu, et remis en question devant le Seigneur, on ne trouve de repos finalement que lorsqu'on s'est suffisamment approché de Jésus pour obtenir le pardon de nos péchés et la paix avec Dieu. Alors je dis ça parce qu'avec toutes les pensées et les philosophies qui circulent dans notre monde, il faut nous méfier de l'hypocrisie. Cette hypocrisie d'Hérode. Méfions-nous en ce qui concerne le salut d'autres démarches que celle de venir à Christ. Même si ça paraît enrobé des valeurs chrétiennes. Ne vous contentez pas de vous sentir un peu troublé, de vous pencher un moment sur les Écritures ou de vous reposer sur de bonnes intentions ou sur quelques promesses pour l'avenir. Le seul chemin pour venir à Dieu, c'est le Christ. Il faut le répéter, je crois que le début de l'année est le bon moment pour répéter ça. Alors et alors seulement, on est en sûreté. Parce qu'il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Voilà ce premier personnage et l'enseignement et les questions qu'il nous pose. La deuxième catégorie, les scribes et les pharisiens, eux ne manifestent aucun trouble, aucune curiosité, aucune colère. Ils sont tranquilles, calmes et indifférents, avec toujours l'écriture sur les lèvres. Mais ils ne se soucient pas plus du Messie que d'Hérode. Pourtant, ils ont une connaissance remarquable des Écritures. Ils peuvent dire exactement où le Christ devait naître. Ils avaient entendu l'annonce solennelle de la venue du Messie, ainsi que le témoignage des mages, selon lequel le Dieu des cieux et de la terre avait commandé à une étoile de changer sa course habituelle pour les guider. C'est pas rien. Et pourtant, ils restent froids et indifférents. Oh oui, on va regarder, pas dans cette matière. Pas plus. Leur connaissance littérale de l'Écriture les a finalement remplis d'orgueil. Dans leur folie, ils se croient sages, ignorant qu'ils sont en fait misérables, aveugles et nus, comme le dit le texte de l'Apocalypse. Et on aurait pu penser qu'un événement aussi important que la naissance du Christ aurait remué les cœurs les plus endurcis. Et on voit qu'il n'en est rien. Et c'est ce que nous annonce déjà Jean, sur lequel nous avons médité à Noël. Les cieux ne l'ont pas reçu. font aujourd'hui. Alors là, c'est une autre catégorie, hein, c'est des gens qui possèdent une certaine connaissance des Écritures, qui peuvent répondre à beaucoup de questions concernant le Sauveur, qui demeurent parfaitement calmes quand autour de les autres sont troublés. Ils sont calmes parce qu'ils ignorent leurs véritables besoins. Ils se croient sages, ils se flattent d'être nés en pays chrétien, d'avoir des ancêtres chrétiens, d'avoir une histoire familiale forte, d'avoir reçu une éducation religieuse, de pratiquer une religion connue. Du coup, ils sont pas ignorants. Mais malgré tout ce qu'ils s'imaginent savoir, ils ignorent la justice de Dieu. Ils ne savent pas que peser la balance divine, ils risquent d'être trouvés légers. Ils n'ont pas conscience de leur besoin d'être nés de nouveau. Ils ne connaissent pas le don de Dieu. Ils ignorent que le Dieu trois fois saint ne saurait accepter aucune excuse pour le péché, ni reconnaître en matière de justice d'autre chose que sa sainteté. Alors ils se promènent, établissant leur propre justice et ne se soumettant pas à celle de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est Christ. Pour ces hommes-là, ces personnes-là, il faut les exhorter à écouter la parole du Dieu vivant, celle qui ne passe point. À ne pas oublier qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas faire l'économie de ce chemin-là, l'unique chemin qui mène au Père et à la gloire. La question, finalement, ici, qui est d'une importance éternelle, n'est pas ce que vous savez ou ce que les autres pensent de vous-même, mais ce que vous pensez de Christ et la relation que vous avez avec lui. On a ce texte où Jésus dit « Je ne vous connais pas ». Quelle tristesse. La troisième catégorie, et on espère évidemment se retrouver là-dedans, en tout cas on a envie, en ce début d'année, de chercher à être ces gens-là, c'est les mages. Ils ont quelque chose de naïf et d'innocent. Ils viennent voir Hérode pour demander où est le roi qui vient de naître. Pas de calcul dans leur recherche. Et dès le début, on comprend que ces images ont quelque chose à nous apprendre. Leur recherche est communicative, on se laisse entraîner avec eux dans leur sillage. Et pour l'évangéliste, le message important, c'est Jésus, le Fils de Dieu, est né. Cette nouvelle qui bouleverse la hiérarchie des choses, ce message capital est validé par des mages. Et Matthieu souligne en cela la portée universelle de ce message, le message de la naissance du Christ. Les mages n'étaient pas forcément bien vus. Il faut le dire ça. Ils venaient de l'ancienne Babylone. C'est pas tellement un bon souvenir hein, pour les Juifs à qui Matthieu destine son évangile. Nous, c'est loin de ça. Mais pour eux, c'est ceux chez qui ils ont été mis en exil. Ils ne sont pas bien vus. Les mages sont des chercheurs. Et pour la vie spirituelle, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces chercheurs. Ils cherchent à comprendre les signes. Ils ont le courage de se laisser embarquer dans une recherche qui paraît bizarre. Ils restent honnêtes et purs dans leur quête. Voilà, chacun peut en tirer des leçons, hein. Pas pour dire qu'il faut qu'on commence à déchiffrer les étoiles, pas du tout. C'est pas du tout le message. Mais en tout cas, nous lisons, nous partageons des textes. Nous pouvons recevoir et visiter d'autres chrétiens, nous pouvons apprendre les uns des autres. Et tout ça, c'est aussi participant d'une recherche de Dieu. Et pour cette recherche, il faut de l'humilité et un vrai désir renouvelé chaque jour de mieux connaître le Christ. Les mages sont aussi des voyageurs et des étrangers. Les mages venus d'Orient qui viennent à Jérusalem. On peut imaginer que c'est un voyage très long. Pas simple. Donc un véhicule électrique, un chameau. Lorsqu'on a représenté cette scène à travers l'iconographie sont obligés d'entendre que le roi des Juifs, leur roi, qui vient de naître, n'est pas visité en premier, n'est pas d'abord découvert par les scribes, les savants, les spécialistes de l'écriture au sein même de leur peuple. Il est découvert par des étrangers, par des astronomes, par des gens qui viennent d'une autre culture, des païens, qui peut-être d'abord ont cru en d'autres lieux. Voilà, ces mages ont su être humbles et mobiles. S'ils avaient été orgueilleux, je crois qu'ils auraient tiré des conclusions derrière leurs lunettes d'observation. Bon, il y a une étoile, il a dû sûrement se passer ça. Ça ne s'est pas dérangé. Mais ils ont voulu vérifier. Ils ont su rester mobiles dans leur savoir, comme ils l'ont été physiquement. Ils cherchaient un roi dans un palais, et c'est logique qu'ils soient allés à Jérusalem. Et puis finalement, ils sont quand même allés à Bethléem, dans un village perdu. Ils ont eu assez d'humilité pour se laisser enseigner par la réalité. Et là, je crois que c'est une sacrée leçon pour chacun de nous. Et se laisser guider par la lumière et la sagesse qui émanent de Dieu. Et lorsqu'ils voyaient l'étoile devant eux, ils avaient l'assurance que c'était Dieu qui les guidait. Et du coup, ils ont fait cette expérience heureuse qui les a conduits au Sauveur. Chercher Jésus, et rien ne va plus les en empêcher. Parce que Christ était lui-même l'objet de leur cœur. Alors ils l'ont trouvé. Puisque Jésus nous dit, celui qui cherche trouve. Ils l'ont reconnu comme le Dieu Tout-Puissant et l'ont rendu ici leurs hommages. Ils l'ont servi en lui offrant non seulement leurs dons, mais aussi, je crois, leur cœur. C'est à Christ qu'ils offrent leur or, leur encens et leur myrrhe. Imaginons-nous quand même ces mages étrangers. Aux dignitaires à la cour du roi de Perse, s'agenouillaient devant un petit enfant, dans une petite baraque, dans un petit village. Voilà, des mages qui obéissaient à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont été avertis par Dieu de ne pas retourner vers Hérode, alors que celui-ci leur avait commandé. Et ils sont repartis par un autre chemin. Ça nous montre aussi que lorsqu'on rencontre le Christ, on change forcément de chemin. Pas repartir par la même route. Alors, cette maladie, là aussi, concernant ces mages, est très simple, très bref, finalement, mais leur manière d'agir ne font pas contraste remarquable avec les autres catégories de personnes qui sont présentes. Tout en nous mettant en garde contre la conduite pernicieuse d'Hérode et ses scribes, ce texte nous demande si nous ressemblons à ces mages. Ils se soumettent aux instructions de Dieu, est-ce que nous le faisons? Ils cherchent et trouvent le Sauveur. Ils l'adorent et lui offrent leur don leur plus précieux. Avons-nous fait de même? Et lorsqu'ils s'aperçoivent que l'homme ordonne une chose et Dieu une autre, chose qui risque d'arriver de plus en plus fréquemment, ils obéissent à Dieu plutôt que l'homme. L'évangile de la visite des mages nous montre que Jésus est né dans un monde où dominaient d'autres puissances. Et au cœur de ce monde est né celui qui a placé l'amour, le don gratuit, la recherche de la vérité. Du reste. Alors puissions-nous ce matin et pour toute cette année marcher à sa suite et nous laisser guider par ce message-là. Puissions-nous nous aussi rester encore et toujours des chercheurs de Dieu, avoir soif de connaître ce Dieu vivant et vrai, en méditant les Écritures, en apprenant chaque jour à le connaître davantage. Puissions-nous vivre aussi en étranger sur cette terre, dans notre pays premier d'ailleurs. Et nous nous en approchons toujours plus chaque nouvelle année. Alors nous devons aussi rester en éveil pour accueillir ce jour de l'Éternel qui approche. Jour où la gloire de Dieu resplendira sur nous. Il n'y a plus besoin de soleil et de lune pour nous éclairer. Jour où son règne de justice et de paix sera enfin établi. Que le Seigneur soit notre guide et notre lumière. Amen.